Décryptage sur RFI.
Anne Cantner.
Haïti s'enfonce chaque jour un peu plus dans la crise. Un gouvernement détesté, sans légitimité démocratique. Des gangs qui contrôlent des pans entiers du territoire et qui sèment la terreur jusqu'au cœur de la capitale. Des habitants qui manquent de tout et le choléra qui revient et menace. Tous les jours ou presque depuis des semaines, les Haïtiens crient leur colère et leur désespoir. Et nous allons essayer de comprendre ce soir l'engrenage qui a conduit à l'impasse actuelle et de voir aussi comment le pays pourrait en sortir. Décryptage pendant les 20 prochaines minutes. Bienvenue. Bonsoir Jean-Marie Théoda.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en géographie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez écrit plusieurs livres sur Haïti, dont Fatra Port-au-Prince aux éditions Parole et Haïti République Dominicaine, une île pour deux, publié aux éditions Cartala. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler de la situation qui ne cesse de se dégrader. On l'entend tous les jours dans la bouche des habitants.
On ne peut trouver ni eau ni nourriture dans ce pays. Maintenant, pour acheter un bidon d'eau, il faut marcher des kilomètres. Où allons-nous dans ce pays ?
La colère d'une femme qui habite sur les hauteurs de la ville des Gonaïves. Elle faisait la queue pour acheter de l'eau potable quand notre correspondant l'a rencontrée. Parce qu'aujourd'hui, il est très très difficile de s'en procurer. Plusieurs entreprises de distribution d'eau, des fournisseurs ont fermé faute de carburant. On va parler des conséquences innombrables dans un instant, mais j'aimerais qu'on dise un mot du point de départ de cette question du carburant. C'est l'étincelle qui a mis le feu à un pays déjà très éprouvé. Les prix des carburants ont augmenté brusquement, doublé parfois parce que le gouvernement a renoncé aux subventions. Pourquoi, à ce moment-là, début septembre, mi-septembre, avant la rentrée des classes et dans une situation qui était déjà critique ?
C'est-à-dire la décision prise par le Premier ministre Ariel Henry le 12 septembre dernier donc de couper les subventions donc, du prix de l'essence, ce qui a provoqué donc, le doublement du prix à la pompe et également dans les stations de détail, ça a été, je dirais, sans faire de jeu de mots scabreux, l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, au sens que le gouvernement n'était déjà pas légitime. Il était contesté dans les rues depuis plus d'un an, depuis que le Premier ministre a pris les rênes du pouvoir sans véritablement recevoir l'onction démocratique, ni d'une élection, ni même, je dirais, d'un corps représentatif qui aurait pu entériner le choix d'un président déjà décédé, assassiné, comme nous le savons, dans des conditions assez troublantes. Donc, la population déjà durement éprouvée par la crise durable de l'économie, par le chômage qui touche plus de 60% de la population, par les privations liées à la crise de la Covid-19 et aujourd'hui par les effets indirects de la guerre en Ukraine. Donc, si vous voulez, il y a en Haïti une conjonction de facteurs qui conduisent à l'explosion, mais on est presque étonné que cela arrive si tard, parce qu'il y a longtemps que la cocotte est pleine en Haïti.
Alors j'aimerais vous faire écouter les mots de la réalisatrice et auteure Jessica Généus. Voilà ce qu'elle disait sur notre antenne il y a quelques jours.
La question, ce n'est pas pourquoi on en arrive là, c'est comment se fait-il qu'on arrive quand même à fonctionner malgré tout, sans que tous les jours, justement, soient complètement explosifs. Comment on fait pour tenir sans vouloir tout détruire? C'est ça la question.
C'est exactement ce que vous évoquiez. Les problèmes sont quotidiens et donc cette situation qui s'aggrave à cause de la fin des subventions sur les carburants. Il n'y avait pas d'argent à trouver ailleurs pour le gouvernement ?
Je pense que nous avons affaire à un gouvernement aux abois qui, n'ayant ni la légitimité, je dirais institutionnelle, pour faire les réformes nécessaires à la bonne gouvernance, qui n'a pas non plus les moyens technique de la répression, comme c'est le cas dans tout pouvoir établi, Ariel Henry s'est trouvé véritablement à la merci du moindre soulèvement, et c'est ce qui s'est passé. Et la question que l'on se pose avec Jessica Généus, c'est comment est-ce que ce peuple poussé à bout a-t-il pu tenir si longtemps pour finalement se révolter ? Et cette révolte, en dépit de tous les débordements que l'on peut bien entendu déplorer, reste en deçà de ce que cela aurait pu être, compte tenu justement de l'absence d'une armée, d'une force de police totalement dépassée, et compte tenu surtout du niveau de frustration de la population.
Est-ce que c'est lié justement au comportement de la police, le fait que cette révolte reste peut-être en deçà de ce qu'elle pourrait être, que si la police réagissait de manière plus brutale, alors la situation dégénérerait beaucoup plus et plus vite ?
Je ne pense pas que ce soit un rapport avec l'intensité ou la faiblesse de la répression, parce que de toute façon, la violence des gangs, elle est supérieure à celle de la police, paradoxalement parlant. Et ça n'a pas empêché les gens de descendre quand même dans la rue. Donc nous sommes dans une situation critique où, en dépit de la faiblesse de l'État, en dépit de la menace représentée par les gangs, la société civile décide de prendre des risques et d'aller contester le pouvoir d'Ariel Henry.
Puisque vous nous parlez des gangs, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'ils représentent aujourd'hui, les parties du territoire qu'ils contrôlent et leur influence sur la vie quotidienne et l'économie d'Haïti ?
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que Haïti fait face à une insécurité systémique qui est liée à une réalité tectonique. Nous avons le souvenir du tremblement de terre de 2010, une instabilité liée à des réalités hydroclimatiques, les tempêtes et les ouragans. Maintenant, vous ajoutez à cela ce qu'on appelle en créole l'abcès sur le clou, c'est la réalité des gangs. C'est-à-dire, n'ayant plus d'armée depuis 1995, Haïti est à la merci de toutes sortes de forces organisées capables de mettre une centaine, voire un millier de personnes en armes dans la rue. Et on considère qu'il y a plus de 600 000 armes de guerre, c'est-à-dire type Kalachnikov, mitrailleuses, en circulation dans un pays d'à peine 11 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une situation sécuritaire qui échappe totalement au pouvoir central. On compte que les gangs occupent également les deux sorties principales de la ville, la sortie nord par Canaan, la sortie sud par Martissan, et cela depuis plus d'une année, depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et la police est totalement absente dans les quartiers périphériques, dans les faubourgs, de sorte qu'on peut considérer aujourd'hui que ce qui n'était jusqu'à présent qu'une métaphore, c'est-à-dire la métaphore de l'État failli en Haïti, nous y sommes. L'État, de fait, a cessé d'avoir les prérogatives régaliennes qui justifient la présence de certaines personnes au pouvoir.
Notamment le contrôle de la violence, on l'a vu régulièrement et encore, ça s'est exprimé de manière très forte au mois de juillet dernier, lorsque des affrontements entre des gangs avaient complètement paralysé des quartiers. Aujourd'hui, l'influence se fait aussi sentir sur l'économie. Et d'ailleurs, on revient à la situation d'aujourd'hui, du manque de carburant, puisqu'aujourd'hui, l'un des principaux dépôts de carburant, si j'ai bien compris, est bloqué par des hommes armés.
C'est le dépôt de Vareux, qui se trouve à la sortie nord de la capitale, dans un espace justement contrôlé par l'un des nombreux gangs qui occupent, en fait, qui se sont séparés le pays, qui se sont répartis le territoire et qui, en fait, ont un comportement totalement féodal. Ce sont des seigneurs de la guerre qui ponctionnent la population et qui exercent un véritable racket sur des infrastructures telles que le dépôt de carburant de Vareux, qu'ils occupent depuis plus de deux semaines. Mais aujourd'hui, les infrastructures, c'est-à-dire les structures telles que les hôpitaux, les cliniques et les banques qui normalement devraient être raccordées à un réseau, stable de distribution d'électricité, ce n'est pas le cas. Chacune de ces institutions possède une génératrice qui doit être en permanence alimentée, donc en essence. Et lorsque les réseaux d'alimentation sont rompus, le pays est totalement paralysé.
Ce qui est le cas en ce moment, il y a des problèmes énormes dans les hôpitaux. Un certain nombre de banques, de supermarchés, vous parliez des banques, sont ouverts seulement la moitié de la journée. Les hôpitaux ne peuvent plus assurer leur mission. Et pourtant, devant les Nations Unies fin septembre, à l'Assemblée générale de l'ONU, à New York, le ministre des Affaires étrangères qui représentait Haïti a dit que la situation était globalement sous contrôle. Ça paraît complètement fou, vu ce que vous nous décrivez.
C'est fou, mais moi, je suis tenté de le prendre au mot et de considérer que, si je suis logique avec mon analyse, qui est que le chaos dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un chaos organisé, un chaos construit, parce qu'il faut savoir que l'insécurité, c'est aussi un marché. C'est le marché, je dirais, de la contrepartie, de la sécurisation, ce qui d'ailleurs, facilite l'accès à des permis d'importation d'armes, de munitions. En fait, quand il dit que tout est sous contrôle, j'ai envie de dire que, en tant que représentant des gangsters, effectivement, le pays est sous le contrôle d'un gang qui a pris également le contrôle du pouvoir institutionnel.
Comment est-ce que ça a été reçu par les Haïtiens, cette déclaration ?
Ça a été reçu comme une gifle. Il y a eu une floraison de caricatures et de mèmes qui rappellent justement le décalage entre la déclaration et la situation. Mais moi, je vais encore plus loin pour dire qu'effectivement, quand il dit qu'il contrôle la situation, ça veut dire que c'est le chef des gangsters, en fait.
D'ailleurs,
puisque ce sont les gangsters qui contrôlent la situation.
Ce que vous évoquez, on l'entend pas forcément de manière avec un lien aussi direct, mais on l'entend beaucoup dans les manifestations, puisque la colère contre le gouvernement est de plus en plus forte. Vous nous l'avez dit, le Premier ministre était contesté depuis très longtemps. Et depuis la fin des subventions sur le carburant début septembre, le Premier ministre est encore plus contesté.
Nous les militants, on veut qu'Ariel Henry quitte le pouvoir. On sera dans la rue tous les jours. On n'a plus besoin d'Ariel Henry à la tête du pays.
Bon, là, ce sont les mots d'un manifestant à Port-au-Prince, mais ces mots-là, on les entend partout, en fait, dans le pays, dans les rues. Est-ce qu'il y a, selon vous, une perspective de sortie de crise démocratique ? Vous nous l'avez rappelé, Ariel Henry n'a pas été élu. Il a été nommé par un président qui est décédé 2 jours après. On ne sait pas très bien quels sont ses liens avec les gangs. Est-ce qu'il y a un espoir de voir la situation politique se débloquer ?
Rationnellement, j'ai envie de vous dire non. Parce que, où que l'on porte le regard, c'est-à-dire quand on se tourne vers le passé et que l'on considère les solutions qui ont été proposées pour sortir Haïti de l'ornière où le pays est tombé depuis quand même 1986, parce que c'est de cela qu'il s'agit, on se rend compte que toutes les solutions ont échoué. C'est-à-dire tutelle de l'ONU, tutelle étrangère américaine directe ou indirecte, et finalement mise en place d'un gouvernement démocratique accompagné. Tout cela a échoué. Donc, il faut peut-être essayer autre chose. Donc, rationnellement, j'ai envie de vous dire, moi, je ne vois pas. Maintenant, il reste l'espoir. L'espoir qu'un pays qui a donné l'exemple, justement, d'une révolution exemplaire, un pays qui a été forgé par des principes de liberté, de partage, de solidarité, un pays dans lequel, en dépit de l'effondrement de l'État, les liens sociaux, les liens de solidarité, les liens, je dirais, de proximité, justement, ont permis de traverser tous les chaos possibles et imaginables. Et c'est peut-être ça qui permet précisément de comprendre qu'il n'y a pas eu d'explosion plus tôt. On parle de la résilience des Haïtiens. Moi, ce n'est pas la résilience, c'est la résistance. Une résistance qui n'est pas seulement militante, mais qui est également, je dirais, paisible. C'est ce réseau de solidarité-là qui me donne de l'espoir et qui me fait dire que nous ne pouvons jamais jeter, je dirais, aux orties l'avenir d'un pays qui a eu, dans notre histoire collective, véritablement une mission prophétique.
Et vous nous le disiez, les manifestations se déroulent dans un climat très pacifique, relativement calme. Il y a eu des pillages, mais la situation pourrait dégénérer bien davantage quand on voit l'ampleur des difficultés auxquelles sont confrontés les habitants d'Haïti. Alors, il n'y a pas que les habitants, il n'y a pas que la population qui demande le départ du Premier ministre. C'est le cas aussi de certains chefs de gang, notamment le tristement célèbre Barbecue. Donc, je pense que son surnom en dit long déjà sur les atrocités qu'il est capable de commettre. De quels moyens de pression disposent ces groupes aujourd'hui face au gouvernement ?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous avons de fortes raisons de croire que les gangs sont associés à certains éléments du pouvoir.
Mais j'ai envie d'ailleurs, de dire, il y a quelques années, des gangs avaient été appelés à la rescousse pour réprimer des protestations populaires.
Les gangs sont une émanation du pouvoir, des pouvoirs qui se sont succédés en Haïti et qui, en l'absence de forces armées, donc de capacités de répression, ont tout simplement privatisé un service régalien. Et maintenant, ces gangs leur échappent et ça devient, si vous voulez, des petits seigneurs autonomes qui font régner la terreur dans le pays. Mais le problème, ce n'est pas tant, je dirais, de savoir quel est le rapport entre ces gangs aujourd'hui et le pouvoir, c'est de voir que personne n'a les moyens véritablement de les contrôler. Parce que s'il y avait eu véritablement un pouvoir intégré en Haïti, avec un chef de l'État, même s'il était arrivé par des moyens frauduleux, mais s'il avait véritablement le contrôle du terrain, on aurait pu en espérer une certaine pacification. Mais là, personne ne contrôle rien. Et c'est bien pour cela que Ariel Henry est doublement, on va dire, illégitime. Illégitime institutionnellement, il n'a pas l'onction sacrée de l'élection, et illégitime par incapacité à véritablement tenir les rênes du pouvoir.
Et est-ce que les gangs, eux, ont suffisamment de pouvoir pour faire tomber Ariel Henry? Et autre question, est-ce que le pouvoir les intéresse? Ou est-ce que la situation actuelle, en fait, leur suffit?
Voilà. C'est-à-dire, de fait, les gangs ont fait tomber le pouvoir, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue matériel, d'un point de vue pratique. Je me souviens que le 17 octobre 2021, qui est une date solennelle dans le calendrier révolutionnaire haïtien, jour de l'assassinat de Dessalines, jour où le chef de l'État va déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du père de la nation, c'est Barbecue qui a occupé le terrain en ayant barré la route au cortège présidentiel. Et c'était un moment symboliquement fort. Cela veut dire que, dans le fond, le bandit a pris la place du pouvoir et la place du pouvoir est aujourd'hui occupée par un autre bandit.
Et c'était lui qui prenait le dessus. Vous nous avez parlé un petit peu d'Ariel Henry, des critiques qui s'exprimaient contre lui. Et lorsque vous parliez des solutions qui avaient été mises en place au fil des années, il y avait la tutelle américaine. Aujourd'hui, on entend aussi dans les manifestations des propos très durs contre les États-Unis. Certains manifestants défilent avec des drapeaux russes autour du cou en disant que si les États-Unis ne soutenaient pas Ariel Henry, ils ne seraient plus là. Pourquoi est-ce qu'ils sont pointés du doigt de cette manière?
Parce que les États-Unis exercent, et ce n'est un secret pour personne, une hégémonie dans ce que l'on peut appeler son étranger proche, pratiquement sans partage. Cuba étant, je dirais, une sorte d'exception sur le plan géopolitique. Mais rien ne se fait en Haïti sans l'aval de l'ambassade américaine. Et ça, nous le savons. Et avant même de prendre certaines décisions, les chefs d'État haïtiens, Ariel Henry ou un autre d'ailleurs, prennent leurs ordres à Washington. Et il n'y a jamais eu un seul mot de condamnation des exactions commises par les gouvernements successifs en Haïti par aucun des gouvernements américains. C'est assez éloquent pour vous dire que ce sont eux qui contrôlent la situation en Haïti.
En quelques mots, parce qu'on arrive vraiment à la fin de cette émission, on entend dans les manifestations des appels à la Russie. Est-ce que, selon vous, ce sont des appels qui peuvent être entendus? Est-ce que Moscou peut être intéressé par Haïti et par un soutien à Haïti?
Je pense qu'il s'agit d'un pied de nez fait à l'Occident, une façon de dire que, puisque les Américains sont les ennemis des Russes, les ennemis de mon ennemi sont mon ami, mais véritablement nous sommes très très loin d'une quelconque intromission russe dans les affaires politiques haïtiennes parce que nous sommes dans un monde véritablement différent.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Marie Théodat. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes maître de conférence en géographie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et que vous avez écrit, entre autres, « Haïti-France, les chaînes de la dette » qui est paru aux éditions Hémisphère, Maisonneuve et La Rose. Merci à tous d'avoir été avec nous. Très bonne soirée sur RFI.